Ouais, donc il y a ces différentes façons d'aborder la réalité, de l'aborder, de la concevoir, de l'interpréter ou de percevoir la réalité. Alors une façon habituelle qu'on a pour nous les êtres humains, voyez si c'est le cas pour vous, c'est un peu sur une ligne de temps. Donc je suis moi et j'étais à tel endroit et je vais à tel endroit et voilà, un peu comme ça. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça, cette façon de concevoir la vie? Bon, ben la première nouvelle, c'est que c'est une conception. Wow, ça part raide. Alors, c'est une façon de concevoir la vie. Il y en a d'autres, peut-être dans d'autres cultures, d'autres façons de concevoir les choses. Et oui, il y en a tout plein d'autres façons de concevoir les choses. Et une des choses qui est possible dans la pratique, c'est justement de relâcher un peu de cette comme façon d'adhérer à cette histoire unique, à cette présentation unique des choses, d'être un peu pris, un peu encagé là, sous l'emprise de cette version. Elle a des avantages, elle est utile. On l'appelle dans la psychologie bouddhiste peut-être une conception conventionnelle des choses, conventionnelle. Et ça tient la route, c'est aidant. Et si on est trop pris là-dedans, on adhère à ça un petit peu trop fortement, on souffre. On souffre. Ça vient avec quoi? Ça peut venir avec un sentiment de séparation, d'isolement. Donc, il y a moi, le reste du monde. Ça ne va pas être facile. Il va falloir se défendre. Il va falloir faire des stratégies. Donc, ce petit moi isolé, là, petite conscience isolée face au cosmos. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu quelque chose. Peut-être qu'on ne pense pas à soi exactement comme ceci, mais ça peut être un peu l'expérience qu'on a. Donc, il y a moi, un peu contre le monde, presque. Ça vient aussi avec la peur de la mort, parce que je me conçois comme existant de façon intrinsèque, absolue, et on n'arrête pas de dire que je vais mourir. C'est une complète aberration. Je fais semblant d'y croire dans les conversations, mais au fin fond de moi, je reconnais absolument rien de ça. C'est pas une possibilité puisque j'existe. Et donc, bon, je joue un petit peu avec ça. Et donc, là-dedans, il se cache un peu cette notion de permanence. Ding! Ça vous rappelle quelque chose? Alors, hier soir, j'en ai parlé un peu, que les pratiques bouddhiques sont beaucoup faites pour qu'on s'approche un peu de la nature impermanente des choses qu'on voit pour nous-mêmes. Donc, la pleine conscience, c'est une plongée sous les idées reçues, sous les a priori, sous les biais cognitifs. C'est un entraînement cognitif qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Telle qu'elle est vraiment, c'est une expression qui est utilisée souvent. Les choses telles qu'elles sont réellement. Et ça pointe beaucoup vers cette notion d'impermanence, ou cet état de fait, ou cette façon qu'ont les choses de se comporter. Et donc, dans notre attention, nous, souvent, on est attiré par, notre attention est attirée par les caractéristiques spécifiques des choses. Ceci est sucré, cela est salé, ceci est à moi, cela n'est pas à moi, et je le veux, à moi. Ceci était du passé, cela sera peut-être de l'avenir, je l'espère ou je le crains. Ceci est bleu, cela est vert, ceci est subtil, cela est grossier, etc. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? C'est ce qui fait notre journée, là. Ah, là, c'est froid, là, c'est chaud. Ah, là, c'est doux, là, c'est rugueux. Puis nous, les êtres humains, on est très intéressés. Encore une fois, là, ce sont des hypothèses, des énoncés. Voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. On est très intéressés par les caractéristiques spécifiques des choses. Une chose est entendue, l'autre est vue. Bon, c'est sans fin, les caractéristiques spécifiques. On a compris, on a compris. quand même, c'est bon que je pousse un peu plus loin toujours pour m'assurer que... Et la pratique bouddhique, cet entraînement cognitif, nous aide à... Ça peut passer par les caractéristiques spécifiques, mais ce vers quoi ça nous mène, ce sont les caractéristiques universelles des choses. Alors que quelque chose soit du passé, une autre chose au présent, une chose à moi ou pas à moi, agréable ou désagréable, etc., etc., goûtée ou entendue, toutes ces choses-là ont en commun d'être passagères. Ou, c'est bien d'aller vérifier si ça se retrouve souvent comme caractéristique, disons, commune. Dans les enseignements, on dit que ce sont des caractéristiques universelles, entre autres l'impermanence. Et le Bouddha s'est employé avec créativité et pédagogie à trouver toutes sortes d'approches, de façons d'être attentive, attentif, pour que ça ressorte, ceci. Donc, avec le corps, je le disais hier, il nous invite à quelque chose de très simple. C'est remarquablement simple. Il nous invite à, tiens, oui, tu pourrais penser à tout le reste de ta vie, puis à cette ligne de temps qui te fascine tant. J'étais là-bas, serais-je là-bas? Si j'arrive pas là-bas, si j'avais été là-bas, je serais ici, mais là, je suis ici, parce que j'ai pas été là-bas, etc. Donc, tout ça qui nous occupe beaucoup sur le coussin ou la chaise. Vous aussi, non? Pas en perche. Ça arrive à Paris, mais quand on arrive en perche, tout à coup, la ligne de temps tombe. L'histoire, la narration, la description. Et donc, on réoriente l'attention. On pourrait partir de l'idée qu'il y a toujours de l'attention. Il y a toujours de l'attention. Et là, nous, on la redirige un peu, l'attention, plutôt qu'elle soit focalisée sur cette histoire, cette narration, ce jeu qui s'en va quelque part, y arrivera-t-il tout à l'heure ou plus tard, ou comment ça va finir, etc. Toute cette attention qui est prise par ces constructions mentales, c'est un effort là, de te garder cette histoire vivante. Il faut tout le temps se la raconter, il faut se la rappeler, il faut l'interpréter, il faut la projeter, il faut la planifier, il faut l'anticiper, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Et donc là, l'invitation, c'est de porter attention à autre chose pour faire ressortir cette nature éphémère des choses. Et donc le Bouddha, il va très très simplement, ah tiens, la respiration, sois attentif à la respiration, puis tout à coup, tu vas découvrir toutes sortes de choses. Alors, juste à travers ça, même qu'elle va, elle vient, que parfois elle est profonde, parfois elle est superficielle, parfois elle est lente, parfois elle est courte. Que l'état mental qui s'attarde à la respiration va changer constamment. Alors, en voulant être avec la respiration, je vais découvrir que je suis un peu énervé, posé, disponible, sous occupation, toutes ces différentes... Et donc, je vais découvrir par le fait même toute la variété, la diversité des états mentaux et leur passage. Alors ça, c'est que la respiration. Après, le Bouddha suggère aussi, ah, tiens, il y a la posture. Pas dans le but de l'améliorer, ah, je veux la parfaite posture, non. Juste la posture comme étant assis, sache que tu es assis. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps dans sa posture. Et pour demeurer conscient de la posture. Et là-dedans, en voulant simplement demeurer conscient de la posture, du corps assis, du corps marchant, on le voit tout à coup, oups, ça part. Hein? On oublie. Et quand on commence à voir la nature éphémère du corps, même de la posture apparaît et disparaît constamment, même si on n'a pas bougé, d'une certaine façon. Un observateur extérieur pourrait dire « Non, tu es bien resté là tout le long, bravo. » Mais de l'intérieur, oh non, on apparaît ici, on apparaît là-bas. Il y a toutes sortes de... Il y a vraiment un jeu là, de fluctuations, d'intermittence, de fugacité. Du point de vue donc de l'expérience humaine, ce qui intéresse beaucoup le Bouddha, pas la nature des choses vues de l'extérieur, mais du point de vue d'un être humain, les choses sont extrêmement passagères. Et juste en étant là avec la, on va découvrir que, à un moment, je suis capable, je l'ai, je vais y arriver. Quelques moments plus tard, j'y arriverai jamais. Hein? Alors, tout, des mondes apparaissent et disparaissent constamment. Des mondes sont créés. Et donc, nous, on a la chance, dans cette immobilité relative, de découvrir tous ces passages, toutes ces apparitions, disparitions, toutes ces présences et ces absences. Entre autres, ça, c'est avec la posture. On risque de découvrir aussi, en fait, ben oui, que c'est ça, que tout à coup, hot flash, quoi que ce soit, il y a des choses qui vont se passer, même si c'est la même assise de l'extérieur, ça peut avoir l'air de ça, ben en fait, il y a un moment où wow, ça pulse, il y a un moment où c'est ça, on est traversé par la rage, peut-être, ou l'impatience, ou tout à coup une plage de calme. Alors, ça va révéler la nature impermanente des choses, cette posture, demeurer attentif à la posture. Ah, il ne s'arrête pas là. Donc, il nous invite aussi à être conscient des activités. Quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Quand elle déplie le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Quand il pose le pied, il sait qu'il pose le pied. Et là, on va commencer à aller dans même un petit peu plus raffiné. Là. Ce ne sera pas « Ah oui, on meurt un jour ». Ce ne sera pas cette forme d'impermanence un peu conçue, conceptualisée, mais ça va devenir expérientiel. Peut-être que dans l'assise, dans une inspiration, on va découvrir le subterfuge. Ah! Il n'y a pas d'inspiration. Ah! J'ai toujours cru. 5 décennies sur la planète et je découvre tout à coup qu'il n'y a pas d'inspiration, que c'est une chose conçue. Parce qu'au début de l'inspiration, il n'y a pas la fin de l'inspiration. Au début de l'inspiration, il n'y a que ce truc-là, il n'y a pas encore ce truc-là. Qu'en fait, je regroupe des choses qui n'existent pas au même moment. Ce que j'appelle une inspiration, c'est différents événements. Me suivez-vous un peu? Là, c'est plus difficile un peu parce que c'est la pleine conscience, disons, stabilisée, concentrée, unifiée, la présence unifiée qui va révéler ça, que c'est complètement étrange d'appeler une inspiration, ou en tout cas, donc c'est arbitraire ou conventionnel, ou une façon de faire, mais c'est quand même un peu bancal. Parce qu'au tout début de l'inspiration, la fin de l'inspiration, c'est complètement inexistant. Et quand on arrive à la fin de l'inspiration, le début de l'inspiration, c'est aussi inexistant que le Big Bang. Et donc, dans une présence beaucoup plus pointue sur le moment présent, tout à coup, les concepts sont un peu déconstruits. Avec peu d'attention, oui, c'est moi qui étais là-bas, c'est moi qui est ici, c'est moi qui est... Puis plus on prête attention, c'est « Wow, ah, voici le moi qui existe là. » Et là, oups, l'autre est disparu. Tout à coup, c'est celui-ci, celle-là. Dans l'arrogance ou la... Comment on dit? Self-righteousness, le bon droit, là, etc. Puis tout à coup, dans la confusion. Alors, toutes ces existences qui apparaissent et disparaissent. Alors, on prête attention. Même là, je parle dans un sens que du corps. La respiration, la posture, le pas, tout à coup, terrifiant, tout à coup. Au moment où on parle, oui, un pas, je fais un pas. Puis tout à coup, soulever le pied... Pousser le pied, dépôt du pied, c'est des moments, au moment où le pied se dépose, le pied qui se soulevait, ça c'est une construction mentale, c'est un souvenir, c'est une image, ça n'existe plus. Bon, là ça s'en vient un peu pointu mon truc, vous vous dites, mais oui, mais quand même. Ça vaut le coup d'aller voir, parce qu'il y a des choses là, qui vont commencer à être disloquées, là, secouées. Ce serait une autre traduction du mot vipassana, où on va aller secouer notre conception du monde un peu, de permanence, de solidité. Et le Bouddha a une autre façon de le faire avec le corps. Il y a Il y en a encore trois que je peux nommer. Ça, c'est qu'avec le corps. Alors, dans le Satipatthana Sutta, que certains d'entre vous connaissez, qui est le texte de référence pour la pratique dans cette tradition Theravada, le Satipatthana, vous pourrez aller le lire plus tard. Vous verrez que dans ce premier fondement de l'attention, donc sur quoi on place l'attention, alors de la même façon que le corps repose sur la terre, l'attention, elle, peut se poser dans le corps, à travers l'attention à la respiration, à la posture, aux activités du corps. Donc, quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Plus elle sera attentive, plus elle verra que oui, ce phénomène-là est apparu et disparu. La tête qui, ou le corps qui se retourne. C'est un phénomène absolument éphémère. Tout à coup, oups, c'est une autre réalité. On est de l'autre côté. Avant, on était de ce côté-là. Puis, oups, on est de ce côté-là. Alors, on repart à marcher comme ça. Donc, la respiration, posture, activité du corps. Et le Bouddha continue avec son truc là, de défaire cette notion, conception, croyance, sens de, impression que, de solidité, de permanence. Et il dit, ah tiens, ceci, la matière, donc le corps, c'est un jeu de quatre éléments. Alors, quels sont, c'est un jeu de feu, de terre, d'eau et d'air. C'est ce qui se passe. Et donc, si on retire les lunettes de « où je vais, où j'étais, y arriverai-je », cette fascination pour un petit jeu sur une ligne de temps, et qu'on met les lunettes des quatre éléments, par exemple, ça aurait pu être celui de la respiration, de la posture, mais là, on met les, pour un moment au moins, on met les lunettes des quatre éléments, en étant assis ici, et plutôt que « je respire » et « je ceci, je cela », on abandonne ça un peu, momentanément, on pourrait y retourner. Mais momentanément, juste un jeu, une exploration. On dépose ça, puis on met les lunettes des quatre éléments. Soit dans la marche, dans l'assise, au moment du repas, dans le lit, dans la forêt, n'importe où, c'est pas très grave. Et qu'on s'approche de l'expérience à travers cette lunette. On va découvrir, ah oui, de la terre qui repose sur la terre, petit tas de terre, reposant sur la terre. Ça, ça coupe la narration. Check la narration. Petit tas de terre qui repose sur la terre. Mouvement d'air, chaleur digestive rayonnant dans le corps, le chaud, le froid. Souplesse du ventre, fluidité, l'élément de l'eau. Quand le ventre se gonfle, il ne craque pas. La peau est hydratée, il y a assez d'eau dans cette terre pour que, oups, il y ait expansion, contraction. Si un coup de vent, ça ne part pas comme un peu de la farine sans eau. Ça part dans tous les sens. Ici, un petit coup de vent, oups, ça reste. Ça reste ensemble. Et donc, c'est une façon d'aborder l'expérience du corps. On peut le faire ce matin dans l'assise, dans la marche, plus tard, etc. Et c'est une façon que le Bouddha a, et il est très explicite là-dessus, c'est pour ça qu'il enseigne ça, les quatre éléments, parce que c'est une très bonne façon réelle de voir les choses, et c'est une façon aussi d'aller questionner, je vais dire le mot le plus doux possible, alors d'aller questionner cette notion-là d'un « je » séparé. Et il dit, ah oui, l'élément du feu, par exemple, intérieur, extérieur, pareil. Donc la température. Parfois, partout, le feu, on le voit bien, hein, depuis quelques années, là, ça, c'est encore plus... Parfois, la dévastation, le feu partout à l'extérieur. Parfois, même chose à l'intérieur, le feu partout à l'intérieur. Parfois, période glaciaire à l'extérieur. Parfois, à l'intérieur, le feu. Intérieur, extérieur, pareil. Pas de différence. Dans un de ses enseignements, d'ailleurs, il l'utilise avec l'élément de la terre. Alors, si je continue avec ce même enseignement-là, l'élément de la terre, parfois au beau fixe à l'extérieur, parfois la terre tremble, se brise, secoue. À l'intérieur, même chose. Parfois, l'élément de la terre. Parfois, l'élément de la terre, ça tremble, ça, comme ça. Intérieur, extérieur, l'élément de la terre, pareil. L'élément de l'eau, inondation, sécheresse à l'extérieur, à l'intérieur, pareil. Pas de différence, c'est le même élément. L'élément de, bon, qu'est-ce qui reste? Le vent. Parfois, le vent, parfois, aucun mouvement dans l'air. À l'intérieur, pareil. L'élément du vent ou de l'air, intérieur, extérieur, pareil. Pas de différence. Et à un moment où il dit, dans un autre enseignement, ah, les êtres sages, oh, et comment, j'oublie toujours par qui il commence. Oui, les êtres sages reconnaissent l'élément de la terre. Les êtres sages reconnaissent l'élément de la terre. Ça presse, ou ça pique, ou ça pousse, ou ça tire. Les êtres sages reconnaissent l'élément de la terre. Les êtres pas très sages reconnaissent aussi l'élément de la terre. Les êtres pas très sages reconnaissent l'élément de la terre, mais ils vont un petit peu plus loin, un petit peu trop loin. Ils disent « mien, à moi ». C'est ça la différence entre un être sage et un être moins sage. Alors, on a du boulot, non, un petit peu. Alors, cette appropriation, cette possessivité, on le voit là, sur la planète, hein? Posséder, posséder la Terre, jusqu'où ça mène, la guerre, le conflit, la peur. Donc, nous, on a cette chance ici, cette semaine, d'explorer ça. Comment il y a cette tendance, cette croyance à s'approprier. Et donc, après, là, je voudrais focaliser un peu sur ces quatre éléments parce que c'est tellement riche comme exploration, mais je vais quand même nommer comment, juste en parlant de ce fondement de l'attention, le corps, le Bouddha continue sa déconstruction, son questionnement de cette... truc de solidité, de permanence, d'un jeu stable et permanent. Et il va le faire un peu comme on le fait dans Metta hier, avec ce qu'on appelle les 32 parties du corps. Alors, il nous invite à méditer sur le corps, en étant assis et en pensant seulement aux ongles, les poils, les cheveux. Voyez-vous la déconstruction qui a lieu? Comment, tu parles de moi, là? Non, je parle des ongles. Des poils, des cheveux, des dents, de la peau, des muscles. En tout cas, les 32 parties, je pense que 22 parties solides, au moins 10 parties liquides, si je me souviens bien. Les larmes, la salive, le pus, l'urine, etc. Donc, c'est une autre façon de pratiquer. Si on allait dans un monastère, peut-être en Birmanie ou en Thaïlande ou au Sri Lanka, peut-être qu'on passerait quelques mois à juste penser au corps, sentir le corps à travers ces différents éléments ou parties du corps. Après, il continue un petit peu, juste il s'est dit, je pense, qu'il a dû se dire, bon, ben, au cas où ça ne le fasse pas encore, peut-être je pourrais ajouter un petit truc dans mon petit chapitre sur le corps dans le Satipatthana, dans cet enseignement. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais inviter les gens, les pratiquants, à contempler, méditer sur le corps au moment de la mort, sur un corps quand il est mort, dans les états de décomposition. Alors, les différents états de décomposition du corps. Le corps juste après la mort, quand il est encore chaud, mais que les éléments se retirent doucement, la chaleur se retire, entre autres. Et ensuite le corps gonflé, après le corps, bon, trigger warning. Le corps, puis ça va jusqu'au corps, quand on voit que les os, mais ils sont encore un peu attachés les uns aux autres, blanchis. Puis quand ils se détachent, et quand tout à coup même les os se désagrègent, comme ça. Alors peut-être qu'ici on aura cette chance de rencontrer le corps. Il y a un petit oiseau juste là, qui... Et donc de s'arrêter, de considérer ceci. Ah, voici, il y avait la vie, il n'y a plus la vie. Donc ça, c'est cette rencontre qui peut être assez poignante, là, avec l'impermanence, hein, c'est... Et donc, il y a ce souhait, le Bouddha, là, pour nous, pour notre libération, pour notre paix intérieure, pour comprendre la réalité telle qu'elle est, qu'on s'approche de très, très près de l'impermanence, de toutes sortes de façons, à tout point de vue, pour que ça puisse libérer là, de cette cage là, d'un je isolé, etc., parce que c'est souffrant. Et donc ça, c'est seulement le corps, les différentes approches, les différentes façons de pratiquer avec le corps. Et donc à l'horaire, il y a une série de postures pour qu'on les voit apparaître et disparaître. Puis ce matin, on peut peut-être jouer un petit peu avec les éléments, les quatre éléments. OK? Absolument OK, donc de commencer debout, si vous voulez, ou bien sûr, comme vous le faites maintenant, de vous étirer un peu, d'ajuster de la posture. Et peut-être une belle réflexion aussi en ce début de journée de pratique, c'est de reconnaître la chance qu'on a, hein, la chance qu'on a de pouvoir pratiquer. C'est pas toujours apparent, là, c'est bien de réfléchir. Alors on a cette chance, nous, d'avoir pratiqué hier déjà. Donc le pire est fait. L'arrivée. Et là, on a cette deuxième journée, cette deuxième opportunité de pratique. Les enseignements ont dit que une naissance humaine, c'est très, très rare qu'il y ait une naissance humaine dans l'histoire du cosmos, là. Que les conditions soient réunies pour qu'il y ait l'expérience d'être humain. Puis on dit que c'est des conditions très, très particulières, la condition d'humain. Oui, pas trop de plaisir pour qu'on veuille être sur un chemin spirituel, pour qu'on soit un peu confus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne pas. Puis aussi, pas trop de douleur pour qu'on puisse, en tout cas, à certains moments, s'arrêter, questionner le sens de la vie. Si on s'imagine l'océan, avec une... ça, c'est une image ancestrale. On s'imagine l'océan tout entier, n'importe lequel, choisissez le vôtre. Et une petite bouée qui flotte à la surface de cet immense océan. Et imaginons-nous une tortue qui, à tous les 100 ans, sort la tête de l'eau pour prendre l'air. À tous les 100 ans. Les chances qu'en sortant de l'eau, sa tête soit au milieu de la bouée. Quelles sont les chances? Ça, c'est les chances d'avoir une vie humaine dans les enseignements. Alors, c'est la chance qu'on a, nous, d'être ici, de pouvoir en plus entendre et considérer les enseignements, les pratiquer. C'est presque comme si une tortue sortait la tête de l'eau aux 1000 ans. Les chances que ça ait lieu. Alors, on a cette chance, nous, aujourd'hui. Et donc, à travers notre façon de pratiquer, ce à quoi on va porter attention et comment on va porter attention. On est invité, ou très naturellement ça va se faire, on va quitter, abandonner au moins momentanément cette ligne de temps. Un petit jeu qui était et sera peut-être pour plonger dans le présent et même dans le corps. Donc on abandonne cette histoire pour découvrir ce qui se passe ici, d'une certaine façon. Ce qui se passe ici, c'est un petit tas de terre. Repose sur la terre. Voyez, si vous sentez la masse, le poids, le contact ou la pression contre les fesses, cuisses, mollets, chevilles, pieds, ou même le poids plus léger des mains qui reposent quelque part. Quand l'air entre dans la poitrine, il y a expansion de la poitrine. C'est un effort. Parce qu'il faut déplacer l'élément de terre. S'affaisse presque aussitôt. Parfois, on sent le poids de la tête. On peut, en serrant les mâchoires, les dents aussi, avoir une expérience directe de cet élément de terre. Dureté. Ou peut-être devenir consciente, conscient du squelette qui donne forme à ce corps, qui donne même la verticalité dans l'assise, l'ossature. Manifestation de la terre. L'élément de la terre, à l'intérieur, à l'extérieur, pareil. En soi, autour de soi, le même élément. Dans le corps, dans les murs, ou les arbres, ou les étoiles, le même élément. Il y a aussi l'élément de l'air qui est en jeu. On sent peut-être l'air entrer par les narines, créer cette légère pression, cette expansion de la poitrine, du ventre. L'élément de l'air, essentiel. Parfois, l'élément de l'air se retrouve dans l'expérience des mains, comme un espace, un champ de picotement ou de chaleur. ou à d'autres endroits dans le corps. Parfois, c'est la poitrine qui devient un espace. Presque comme si on avait accès à tout l'espace entre ou à l'intérieur des atomes. Parfois, c'est le crâne, le dessus de la tête qui semble ouvert. L'espace. Du cerveau mental. L'espace à l'intérieur de la bouche qui permet à la langue de se déplacer. Parfois l'air dans les parois digestives monte ou descend, créant des petites bulles, des sons. Et l'air tout autour du corps l'espace. Le ciel, le cosmos, l'élément de l'air à l'intérieur, à l'extérieur, pareil. Ce jeu qui a lieu en ce moment, de la terre et de l'air, qui donne l'expérience du corps. L'élément du feu, la température dans le corps, dans différentes régions du corps, le chaud, le froid, le frais. Dans le ventre, la chaleur digestive qui rayonne, irradie, réchauffe le corps. Sang qui circule, réchauffe le corps. Autour de nous, en nous, ces fluctuations de température, l'élément de feu, sa grande présence, son absence. Autour de nous, en nous, exactement pareil. Le jeu. On peut faire l'expérience avec lucidité, clairement, consciemment, le jeu des éléments dans le corps, le feu, la terre, l'air, en jeu en ce moment. Que ça. Et l'élément de l'eau dans le corps, on peut peut-être le sentir en bougeant les yeux, à travers les paupières closes, les larmes évitent la friction, atténuent la friction, une certaine souplesse, fluidité dans le les yeux qui bougent, la bouche produit de la salive. On peut, si on veut, mouiller ses lèvres, laisser la langue glisser sur les lèvres pour faire l'expérience de l'élément de l'eau. Ou sentir dans le ventre. Les organes du ventre, la présence de l'eau. Dans la peau hydratée. Parfois la présence, la fluidité de l'eau, parfois son absence, la rigidité, la dureté. L'humidité à l'extérieur de nous, en nous, pareil. Pas de différence. Et ce jeu qui a lieu en ce moment, les quatre éléments. Et certains apparaissent parfois plus palpables que d'autres. Et pendant la journée, ça joue. Éphémère, passager, fluctuant, dynamique. Et au moment de la mort, en approchant de la mort, les éléments doucement vont quitter le corps. L'eau, la chaleur, le souffle, l'air. La terre qui retournera à la terre, très naturelle. Le Bouddha dit à Rahula, son enfant, Rahula, que ta méditation soit comme le vent qui souffle également sur toute chose. Laisse ton attention connaître toute chose. Rahula, que ton attention soit comme la pluie qui tombe également sur toute chose. Laisse ton attention tomber sur toute chose qui se présente à toi. Laisse ton attention être comme la terre qui porte ce qu'on y dépose. Laisse ton attention, ta présence être comme le feu qui fait oui. Feu de tout bois. Sentez comment l'élément de la terre, la cloche, le bâton, peut créer un mouvement dans l'air qui va atteindre l'oreille. Ce jeu des éléments, cette danse des éléments. Alors, ce sera peut-être une façon aujourd'hui, un peu ce matin, de pratiquer, de s'approcher de l'expérience à travers cette lunette des éléments. Mais ça pourrait être, bien entendu, la posture, la respiration, les parties du corps. Puis on voit aussi avec la vie émotive, hein, comment ça a une influence sur la vie physique, là, sur les éléments. Hein. Alors, dans la joie, peut-être qu'il y a une expérience de légèreté ou... Dans la colère, de dureté, peut-être, contraction, etc. Alors, les états mentaux sont aussi une sorte de nutriment là, pour le monde physique. Ils ont une influence sur comment le corps est ressenti. Et, ouais. Alors, juste au moment où je pensais que j'étais pris avec moi-même pour le reste de mes jours, je découvre qu'en fait, non, c'est juste un jeu d'éléments. Ah, libéré de Pascal. Parce qu'il fallait absolument améliorer cette personnalité, etc. Ah non, c'est juste un jeu d'éléments. Petit tas de terre qui repose sur la terre. Un autre point de vue, hein, qui peut être libérateur. Il y aurait peut-être le temps pour une question, une clarification, une nuance. Opposition.
C'est pas une question, c'est juste que des fois j'ai du mal à comprendre ce que tu dis, notamment à la fin des phrases.
Ah.
C'est ta voix descend plus loin.
Oui. Voilà, juste... Ok, je vais appuyer sur l'élément de terre pour que ça soit projeté dans l'air. Merci de nommer. De le nommer. Je me pratique. Ok, donc marche méditative et rencontre en petit groupe. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.